Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire. Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi, c'est la dernière de la semaine, il reste quelques heures avant deux jours de congé bien mérité. Marianne Paquette au micro, je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Un peu comme une alarme, la fièvre nous indique quand quelque chose ne va pas, quand notre corps réagit, qu'il lutte contre une attaque. Comment on peut mieux comprendre ce baromètre qu'on a tous, ce baromètre intérieur et qui peut être utile, hein, on va l'apprendre. Et comment aussi mieux réagir, là, parfois, quand on est parent d'enfants qui ont la fièvre, on est inquiet. Jocelyne Gadebois, infirmière, notre infirmière maison, sera là en deuxième partie d'émission pour nous expliquer tout ça. Mais d'abord, je vous rappelle qu'en 2005, les cours d'éducation sexuelle ont été abolis dans les écoles. Ça a un impact plutôt négatif sur la santé sexuelle des jeunes. Depuis 1993, toutefois, François Blais, lui, se déplace d'école en école partout au Québec pour sensibiliser les jeunes aux infections transmises sexuellement et par le sang, plus particulièrement le sida. Tournée plus qu'essentielle quand on sait, et ce d'après des données du ministère de la Santé et des Services sociaux qui datent de 2012-2013, qu'il y a l'équivalent de 2 nouveaux cas d'infection au VIH à chaque jour et que ça touche de plus en plus des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Bonjour François Blais.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci
malgré le froid. Vous êtes fondateur de Ruban en route, conférencier et séropositif.
C'est exact.
Est-ce que en tant que... Bon, bien sûr, vous la côtoyez, cette maladie-là, vous-même, au quotidien. Et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes confronté encore, en 2015, à des préjugés et des tabous?
Les préjugés, les tabous, ça fera partie du reste de ma vie qu'il me reste parce que, bon, on se dit une société qui est ouverte, mais dans les faits, je vous donne un exemple fort simple. Bon, c'est la 20e année de tournée de Ruban en route à travers les écoles. Il y a des coupures partout, on subit les conséquences et à un certain moment, ben, on est un petit peu alarmé à savoir est-ce qu'on va avoir encore un boulot d'ici un an ou deux. Donc, on est à la recherche d'un emploi. Je remplis un formulaire d'emploi et rendu au médical, qu'est-ce qui arrive?
Ben ouais.
Alors, c'en est un préjugé.
Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit pas?
Si on le dit pas puis on passe pas le médical, c'est sûr qu'au médical, tu le passeras pas. Tu as des médicaments à prendre, ton assurance privée ou l'assurance de l'employeur va te rattraper et tu pourras être congédié par la suite. Mm-hmm. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Quand tu voyages, quand tu fais un emprunt, c'est toutes des choses qui vont te rattraper et qui te rappellent que tu es pris avec un virus qui est potentiellement mortel. Mais entre-temps, tu continues à travailler, tu payes tes impôts, tu vis normalement.
Oui. Et d'ailleurs, au sein même de vos conférences, François, c'est-à-dire vous le dites aux jeunes que vous rencontrez que vous êtes séropositif, mais vous ne dites pas la cause parce que vous ne voulez pas alimenter les préjugés.
Tout à fait. Moi, quand je me présente, en tout début, j'explique le déroulement de la conférence qui a 3 parties, jeu, démonstration, et on termine avec le témoignage d'une personne. Et quand on arrive à la 3e partie, qui est le témoignage, et je me présente, les
gens...
C'est
vous le témoignage.
C'est moi le témoignage. Oui. Donc, les gens restent silencieux, surpris. J'en ai même qui vont me demander à la fin si je ne suis pas un comédien, oui. Parce que physiquement, ça ne paraît pas. Je suis super en forme, donc...
Vous avez bonne mine.
Oui, tout à fait. Donc, alors, tu sais, il y a toujours un effet de choc à la fin et puis les gens sont surpris.
Vous rencontrez des jeunes là, depuis 1993 dans des écoles partout au Québec, une 50aine d'écoles à peu près là, par année. Ces jeunes-là...
Qui est à la baisse en passant.
Ah oui, parce que...
À cause des coupures.
Avant, c'était plus.
Tout à fait. On est allé jusqu'à 80 établissements scolaires par année. Donc, depuis environ 4-5 ans, avec toutes les décisions politiques, on en subit les conséquences. La prévention, oui. C'est déjà un sujet qui est tabou. Oui. La sexualité, encore plus. Donc, on passe dans le tordeur.
Mais ces jeunes-là, à travers les années, vous avez appris à les connaître. Est-ce qu'ils sont bien au fait... leur connaissance, là, elle se situe où en matière de prévention, de symptômes, de traitement des maladies, des ITSS, le mode de transmission également? Sont-ils au courant quand on sait que depuis 2005, il n'y a plus de cours d'éducation sexuelle?
Il y a plusieurs réponses à votre question parce que en 21 ans de tournée, là, on a quand même subi un paquet de trucs nouveaux. Hein. Il y a eu l'abolition des cours de formation personnelle et sociale, dont à l'époque on parlait des MTS, hein, oui, les maladies transmissibles sexuellement. Alors quand on parlait aux jeunes de maladies transmissibles sexuellement, ils restaient craintifs. Maintenant, un ITSS, une infection transmissible sexuellement, il n'y a rien là, on prend des comprimés.
Ouais.
Donc ça, c'est le raisonnement que les jeunes vont avoir. Par la suite, il y a eu l'abolition des cours, on n'en parle plus, Internet est arrivé, fléau.
Oui. Là, on apprend par Internet. Hyper accessible.
Oui, puis il ne faut pas oublier que par Internet aussi, on peut attraper des virus. Donc, oui. C'est le lien que je donne aussi. Et ensuite, il y a la médication qui est arrivée sur le marché. Donc, tu sais, quand on écoute les nouvelles, on a 30 secondes d'une nouvelle, alors on va retenir très peu. On va retenir qu'une médication, c'est fantastique. Donc, les gens disent, ouais, mais si on l'attrape, on va voir l'infirmière puis on va prendre une médication. Mais ce qu'on explique dans nos conférences, c'est que je le sais, j'en prends depuis je ne sais plus combien d'années, il y a des conséquences. Il ne faut pas les oublier. Il faut les payer.
Oui.
Moi, là, je suis rendu à 2100 $ de médicaments par mois.
Par mois? Je pensais que vous alliez me dire par année.
Non, par mois. Et je ne peux pas me dire à ce mois-ci, là, je ne les prendrai pas parce que sinon, il y a un manque. Bon, alors, on explique tout ça et les jeunes ne sont pas informés.
Mm-hmm. Donc, si je vous entends bien, François Blais, oui, l'information est de plus en plus accessible, circule à vive allure, mais les jeunes sont de moins en moins informés sur la sexualité et les ITSS.
Oui.
Oui.
Et en plus, on le remarque, là, il y a un fléau, c'est une épidémie d'ITSS au Québec en ce moment. Il y a encore des dirigeants qui se demandent le pourquoi. Faut pas aller loin. T'sais. Le jeune passe une grande partie de sa vie en milieu scolaire. On ne donne pas les outils aux infirmières en milieu scolaire. Tu sais, quand une infirmière a 3 écoles par semaine, elle n'éteint que des feux.
Ouais.
C'est hallucinant. Les enseignants n'ont plus le temps non plus. Les jeunes veulent avoir des réponses à leurs questions. Quand on te répond que l'avortement pour un jeune est un moyen de contraception, c'est hallucinant d'entendre ça.
On a l'impression d'avoir fait du recul à ce moment-là.
Un recul énorme. Et en plus, quand on te raconte une fin de semaine devant 450 personnes, comme si on se parlait en tête à tête, de sa propre vie sexuelle, ça devient hallucinant. Là.
Mm-hmm.
Donc, la pudeur n'est plus là. Ils ont besoin d'informations. Les gars se cherchent énormément. Tu sais, moi, j'ai des gars qui viennent me voir, qui me disent, écoute, moi, j'arrive, là, je suis dans ma phase où je suis actif sexuellement, là, puis je suis pas performant. Puis tu dis, ouais, mais pourquoi tu ne dis pas performant, là, 16-17 ans, là,
oui.
Il me semble que tu es dans...
toi une chance, oui.
Mais non, c'est pas comme dans un film.
Mm-hmm.
Donc, c'est une réalité et puis il y a un gros manque d'éducation, il y a un gros manque de ressources et c'est important d'en avoir.
Donc, les jeunes sont toutefois à l'aise de parler de leur sexualité. Ils ont envie ou trop, selon vous?
Trop, parce que comme je vous dis, quand il y a 450 personnes et qu'elle va te raconter sa fin de semaine de active sexuellement, c'est quand même hallucinant, là.
Est-ce que, selon vous, François Blais, on parlait de médication là, et que ça vous coûte un chiffre effarant mensuellement, ces médicaments-là, notamment la trithérapie dont on a entendu parler notamment dans les dernières années, banalisent un petit peu le fait de vivre avec le VIH?
Banalise un petit peu, c'est un faible mot, banalise carrément.
Mm.
C'est vraiment... Quand t'es jeune, t'as une espérance de vie qui est de 125 ans, t'es...
Oui.
Il n'y a aucun virus qui peut être...
Invincible.
T'es invincible, c'est le mot que je cherchais. Oui. Et là, avec cette médication-là, c'est pas grave si on attrape quelque chose, il y a une médication qui est là. Puis comme je dis toujours, je suis pas un bon exemple non plus. Tu sais, moi, je suis hyper dynamique, je bouge, je fais du sport. Puis je viens vous parler de ma vie comme personne séropositive. Puis là, tu regardes le gars à l'avant, tu vois, il est pas mince, lui. Il est en forme, donc c'est pas grave. Et je leur dis, je ne suis pas un bon exemple, c'est parce que je suis chanceux, je suis encore là, la médication fonctionne bien, j'ai un bon rapport avec le médecin, ce qui est hyper important, sauf que je vis avec un virus qui est mortel, puis il y a ça qui me suit, qui est la médication. Et moi, j'apporte toujours la médication avec moi pour leur montrer que c'est ma semaine de comprimé et que je ne peux pas m'empêcher d'en passer une journée. Là.
Mais je peux pas m'empêcher de penser, je fais un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, François Blais, ça peut devenir, par contre, cette médication-là, quelque chose de lourd. Bon, on parle du point de vue financier, mais tantôt, vous parliez aussi des préjugés liés au milieu de l'emploi. S'il est difficile de se trouver un emploi, le revenu est moindre et à un moment donné, il est difficile d'aller se procurer les médicaments nécessaires mensuellement.
Moi, je nommerais pas la compagnie en tant que telle. J'ai fait une demande d'emploi, j'ai eu une entrevue, puis à la fin de l'entrevue, la personne me regarde et a dit « T'es venu à mon école? » J'ai dit « Oui, c'est possible. » Donc, « Mais je pourrais pas te prendre à cause de ta médication. » L'employeur, s'il a le choix entre une personne saine et une personne qui a une charge au niveau de la médication, c'est officiel qu'il va prendre l'autre personne. Donc, ça a des conséquences énormes, ne serait-ce que de voyager. Voyager peut être difficile dans certains pays où on interdit encore l'accès aux personnes séropositives. Figurez-vous, imaginez-vous, vous me voyez, les gens là, à la maison ne me voient pas. J'arrive aux douanes, je pars un mois à l'étranger. J'ai besoin d'un mois et quelques jours de médication. C'est une quantité phénoménale. Ça a l'air de quoi? J'ai l'air d'un pocheur qui arrive avec une quantité de drogue. Donc, ça a des conséquences.
Ça a des impacts dans votre quotidien.
Tous les jours.
Vous le disiez, vous n'êtes pas le meilleur exemple pour parler aux jeunes. En même temps, vous le faites depuis 1993. Comment on sensibilise les jeunes au VIH, donc?
Moi, je le fais avec l'humour. Je me suis inspiré d'un enseignant que j'ai eu au secondaire qui passait sa matière avec humour. On avait de la matière et c'est l'année où j'ai appris le plus. Donc, l'humour est important, le message passe mieux et ensuite, on n'est que soi-même. Donc,
oui, vous êtes très transparent.
Oui, je raconte de A à Z ce que j'ai vécu, comment je l'ai appris, comment j'ai appris à ma famille, à la personne avec qui j'étais à l'époque, les conséquences que ça peut avoir encore aujourd'hui. Et ça se fait tout naturel. Puis les jeunes aiment le vécu, aiment qu'on soit vrai. Et moi, je dis toujours, je ne suis pas politicien, donc je vais répondre à vos questions.
Vous parlez de famille, François Blais. Les parents réagissent comment? Les parents, bien sûr, de ces enfants, de ces jeunes adolescents que vous rencontrez dans les écoles, est-ce qu'ils sont ouverts, contents que quelqu'un aborde le sujet ou plutôt réservés?
On a de tout. On a de tout. J'ai déjà eu des écoles qui, après notre passage, mon passage à l'école, ont fait désinfecter le gymnase. Il y a des parents qui vont être d'accord à ce qu'on en parle, mais qu'il n'y ait pas de distribution de condoms. T'en as d'autres qui sont complètement ouverts. Donc, ça dépend du milieu, ça dépend de la région. Tu sais, on fait le tour du Québec. Donc, on peut avoir beaucoup de réactions.
Êtes-vous en train de me dire que ici, Canal M est dans le Ville-Marie. Dans le quartier ici, on est plus ouvert que peut-être ailleurs, en région éloignée?
Moi, je vous dirais que la région de Montréal est la région la moins ciblée par notre tournée.
Okay.
Ça veut dire que la demande, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà fait des écoles à Montréal où c'est multiethnique, multiculturel. Donc, c'est hyper difficile de parler de sexualité. Bien sûr. Là. Alors, il faut faire face aux communautés. Donc, il n'y a pas énormément de demandes à ce niveau. Par contre, ce serait important de le faire. Tu sais, moi, je dis toujours aux parents, puis les parents qui écoutent, qui sont un petit peu là, fâchés, irrités d'entendre ça, c'est qu'on a le choix en tant que parent. Puis moi, je sais, depuis quelques années, je suis devenu parent par adoption. Et la pire épreuve qui peut arriver en tant que parent, c'est de perdre un de ses enfants. Alors, on a le choix. On l'a au Québec, là, c'est de faire de la prévention puis d'essayer d'éviter qu'une personne devienne séropositive, parce que ça existe encore, c'est pas un sujet qui est à la mode, mais ça existe, ou dans quelques années, on risque d'enterrer notre enfant, puis il n'y a pas un parent qui va vouloir vivre ça. Là. C'est le pire drame qu'un parent peut vivre.
Quand on vit avec le VIH, de quelle façon l'entourage prend son importance?
C'est difficile parce que... On est porteur d'un virus qui est mortel, mais on n'est pas malade. Donc, c'est difficile si je vous regarde. Ben, tu sais, t'as un virus qui est mortel. Ça va bien. On se fait pas. Tu perds 5 livres. Là, on va commencer à se poser des questions. Tu commences à être malade et c'est là que la panique s'installe. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis, à l'époque, tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai appris le diagnostic, on me disait, ouais, mais jeune, inquiète-toi pas, t'as peut-être entre 5 et 8 ans. Puis j'avais regardé le médecin en tant que tel, puis j'étais parti à rire parce que pour moi, 8 ans, c'était une éternité. 8 ans,
oui.
Là, oui. 8 ans, mais ça passe d'une vitesse.
Parce que vous étiez invincible à votre tour. On disait tout à l'heure, les jeunes se sentent éternels.
Oui, probablement évincés, mais 8 ans, c'est quoi la notion du temps quand tu n'as aucune maladie? Le temps n'existe pas.
Ouais.
Mais là, on dit un délai de 8 ans, mais moi, 8 ans, c'était loin. Mais pourtant, 8 ans, je vous regarde un instant, je me retourne et je reviens, puis c'est passé. Et c'est de toujours vivre avec ça aussi. C'est une autre conséquence. Hein? On me dit qu'il y a une maladie mortelle, mais on ne me donne pas de date.
Mm-hmm.
Contrairement à des maladies comme le cancer qui peut être terminal, on va dire à peu près entre 6 et 8 mois, plate, là, mais tu as comme un chiffre. Mm-hmm. Tandis que là...
Et c'est pas non plus une maladie dégénérative où il y a des symptômes très, très clairs de perte d'autonomie ou autre.
Non, ça se fait graduellement, puis avec les résultats aussi, quand tu vas à tous les 6 ou tous les 3 ou 6 mois chez le médecin prendre des prises de sang, on va te donner tes résultats, et là, on va voir que le virus s'active de plus en plus, tu commences à avoir de plus en plus de grippe, donc ça se fait graduellement, puis
ouais.
Ça finit par la mort.
On explique comment... ces chiffres-là, je les disais d'entrée de jeu, assez effarants, là, 2 nouveaux cas... par jour, énorme au Québec, dans une société ouverte, informée, éduquée, et que ça touche des jeunes 15 à 24 ans.
D'un, j'irai avec le commentaire suivant, les jeunes, c'est pas payant.
Mm.
C'est pas une clientèle qui rapporte monétairement, c'est pas une clientèle qui rapporte politiquement, et c'est pas un sujet qui est à la mode. Donc, on s'en fout. S'il y avait un ministre qui se tenait debout, qui prenait en considération les chiffres que vous venez de mentionner, qui ont déjà été plus élevés, d'ailleurs, mais grâce à la trithérapie et tout le kit, il y en a moins, on prendrait les choses au sérieux. Nous, comme je vous dis, ça fait 21, c'est la 21e année de tournée.
De ruban en route.
C'est une formule qui est gagnante. J'ai des anciens élèves qui sont devenus professeurs qui s'en souviennent. Et je vais vous raconter, je suis allé au Mexique dans le temps des fêtes, et puis je marche sur la 5e avenue, puis il y a une dame qui m'arrête, qui a déjà vu la conférence dans une école, étant quand même à l'étranger. Donc, ça marque, mais personne est là pour financer adéquatement.
Mm-hmm.
C'est pas compliqué, là. Tu sais, de la prévention, il faut en faire, il faut que ce soit répétitif.
Parce que ça non plus, c'est pas payant, la prévention.
Mais non, c'est pas payant. C'est pas payant. Puis c'est pas, on n'est pas capable de quantifier le nombre de personnes qu'on va sauver. Mais tu sais, la prévention, il faut la faire, il faut répéter, et c'est comme ça qu'on va avoir des résultats à long terme. Et je ne dis pas que la tournée Ruban en route et la tournée qui va sauver le Québec du VIH, mais c'est un élément de plus,
oui.
C'est un outil qu'on donne de plus dans le coffre aux jeunes pour avoir une vie sexuelle active, sécuritaire.
Oui, oui, et vivre le plus longtemps possible.
Tout à fait, c'est le plus beau cadeau.
En finissant, j'ai pu voir qu'il y a une application mobile qui
oui.
en parle. On sait que les jeunes sont très attirés vers la technologie. On peut la trouver de quelle façon? Avez-vous au courant?
Il y a la trousse de Ruban en route oui. sur notre site qui est www.rubanroute.org. Il y a
oui.
des trousses pour avant et après notre passage. Il y a le gouvernement aussi du Québec qui en ont. Des trousses, ils peuvent aller sur le site du gouvernement du Québec. Tous les outils sont bons pour arriver à une prévention.
François Blais, ça a été vraiment un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes fondateur de Ruban en route. On mettra également votre site sur le nôtre et conférencier. Merci beaucoup de votre passage.
Merci à vous.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635. Et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Jocelyne Gadebois.
Bonjour Marianne Paquette.
Infirmière maison, je me plais à dire ça, ici à C'est bon pour la santé. Et je trouvais que c'était un bon temps pour parler de la fièvre parce que beaucoup de gens autour de nous sont malades. Et c'est souvent, et vous me corrigez si je me trompe, un signal, la fièvre, qu'il y a quelque chose qui se trame. Là.
Tout à fait. La fièvre, c'est une réaction du corps. C'est le corps qui annonce qu'il y a un problème de combat à l'intérieur, par exemple. n'y a pas seulement une infection qui peut causer de la fièvre. Si on s'expose à la chaleur, comme certains travailleurs, ou l'été au gros soleil, ça va faire aussi monter la température du corps. Alors, il faut quand même prendre des précautions et le corps va réagir de la même façon parce qu'il y a une élévation de température.
Oui, puis on entend souvent parler d'enfants qui font les dents, l'expression là, que l'on dit, et qui présentent de la fièvre à ce moment-là aussi.
Oui, oui. Ils combattent un peu, pas vraiment des microbes, des virus, des bactéries, mais le corps réagit comme pour lui indiquer qu'il y a de l'inflammation. Mm-hmm. Alors, c'est l'inflammation à ce moment-là qui est la cause et la douleur. Alors, le corps réagit par la fièvre. C'est le mécanisme de régulation de la température du corps.
Mm-hmm.
Alors, souvent, un enfant, quand il perce des dents, il y a de la douleur et il y a de l'inflammation. Et ça va faire monter la température du corps de l'enfant parce qu'il va être agité. Entre autres.
Mm-hmm, mm-hmm.
Alors, c'est là, avec plusieurs facteurs, c'est là qu'on dit que quand il fait ses dents, il peut faire de la fièvre. C'est pas à cause des dents, mais c'est à cause de la réaction d'inflammation que ça crée.
Est-ce que, à quelque part, ça peut être positif de faire de la fièvre?
Bien oui, parce que c'est le signal qu'on va constater le plus facilement, dû à une infection, par exemple. Et c'est le signal que donne le corps pour qu'on puisse s'occuper de lui, puisse l'aider aussi.
Est-ce qu'on peut être malade sans faire de fièvre?
Ça peut arriver si ce n'est pas une infection ou si c'est une infection chronique, comme, je ne sais pas, moi, l'arthrite rhumatoïde, tiens.
Mm-hmm, mm-hmm.
Une infection chronique, ça, c'est un problème de comment on dit ça donc déjà? Un problème d'auto-immune, mm-hmm. donc de diminution du système immunitaire. Ça crée un statut d'inflammation chronique, puis ça peut faire augmenter la température à ce moment-là, oui.
Je pense que la température dite normale, c'est entre 36,5 et 37,5, quelque chose comme ça?
On dit 37, généralement.
Ça, c'est vraiment le chiffre auquel on...
Le chiffre magique.
Le chiffre magique.
Oui.
Question un petit peu drôle, mm-hmm. Jocelyne Gadebois. Est-ce que ça peut arriver de descendre en bas?
Bien sûr.
C'est-à-dire, là, 34, 33?
Bien, la limite acceptable, c'est 35 degrés.
OK.
OK. On va vraiment beaucoup surveiller les petits bébés nouveau-nés. Pour pas que leur corps se refroidisse. À 36 degrés, là, un bébé, on va le réchauffer. On veut pas qu'il aille plus bas que ça. 35 degrés, c'est l'hypothermie.
OK. Alors, c'est l'inverse de la fièvre.
C'est l'inverse.
OK.
Mais c'est le même mécanisme d'autorégulation qui se passe dans notre cerveau puis qui s'en va donner les messages là, pour dilater ou pas dilater les vaisseaux pour que soit on frissonne pour faire de la chaleur.
Ah, oh, bien ça, c'est bien intéressant.
Hypothermie, on frissonne, puis on fait de la chaleur. Le poil se dresse, puis c'est comme une petite contraction qui est là, mais on frissonne, puis plus que nos muscles frissonnent, on va augmenter notre corps. La fièvre, quand c'est de l'hyperthermie, bien à ce moment-là, ça va dilater les vaisseaux.
Mm-hmm.
Parce qu'on veut que la chaleur sorte.
Oui, oui.
Alors, la peau va être chaude, on va être rouge, des rougeurs dans la figure ou sur le corps. Et puis, on va avoir soif parce que la chaleur, ça donne soif.
On se déshydrate,
soif.
Oui. D'ailleurs, c'est important, si notre enfant fait de la fièvre, de s'assurer qu'il boit régulièrement.
Absolument.
Oui.
On veut prévenir le risque de déshydratation.
Est-ce qu'il y a autre chose à observer quand soit notre enfant ou bon quelqu'un d'autre dans notre entourage présente des signaux de fièvre?
Oui. Pour les enfants, la déshydratation, c'est la première chose. Quand ils n'urinent pas depuis 8 heures, quand il y a de la difficulté à respirer, quand il peut avoir de la difficulté à avaler ou devenir très somnolent. Très, très somnolent, on a de la difficulté à le réveiller. On peut voir qu'un enfant plus vieux un peu, il est un peu confus puis très mou. Il nous répond plus de la même façon. Alors là, on va aller consulter vraiment à l'urgence quand c'est rendu à ce point-là.
OK.
Pour une fièvre, là, vraiment comme 38, 38,5, jusqu'à 40, je dirais, là, on peut consulter dans une clinique médicale.
OK. Puis, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire à la maison?
Absolument. D'abord, c'est de l'observer, l'enfant, de regarder sur son corps s'il n'y a pas des boutons qui poussent. Ça peut être une maladie contagieuse d'enfant aussi. Ça précède par la fièvre, bien souvent. Mm-hmm. Puis, tout à coup, l'éruption apparaît. Alors, ça, il faut consulter en clinique, pareil, parce qu'il faut avoir le diagnostic de la maladie contagieuse, puis là, toutes les mesures de protection pour la contamination puis la transmission de la maladie. C'est le repos, c'est l'hydratation et le surveiller. Ensuite, on peut donner de l'acétaminophène.
Mm-hmm.
Aux enfants plus jeunes, on ne donne pas d'ibuprofène, mm-hmm. parce qu'on peut donner autant l'acétaminophène que l'ibuprofène.
Pour les petits?
Mais pour les petits, okay. en bas de 6 mois, on ne donne pas d'ibuprofène.
OK, parfait. Et le fameux bain de glace, mythe ou réalité?
Mythe.
Uh-huh.
Mythe. Alors, bain de glace, ça va créer de l'hypothermie.
Mm-hmm.
L'hypothermie, comme j'expliquais tantôt, il y a un signal de régulation dans la tête et on se met à frissonner. Le frisson augmente la température.
Mm-hmm.
Alors, c'est pas ça qu'on veut. Si on veut rafraîchir notre enfant parce qu'il a transpiré beaucoup, puis ça ferait du bien de faire un petit bain, bien, on met le bain à la température là, vraiment tiède.
OK.
Pas de glace.
Et le meilleur moment de la journée pour prendre la température?
Bien, c'est le matin.
OK.
C'est vraiment le matin. Mais quand on fait de la température, puis que de l'hyperthermie comme 40 et plus, il faut surveiller. Alors, on va la reprendre aux 4 heures ou aux 8 heures,
mm-hmm.
en commençant le matin.
Et on sait qu'il y a différentes façons de prendre la température, mais la meilleure, thermomètre en dessous de la langue?
Bien, pour l'adulte,
oui.
c'est thermomètre en dessous de la langue, thermomètre électronique ou un thermomètre rempli avec de l'alcool, mm-hmm. moins avec du mercure maintenant.
Bien sûr.
OK. Mm-hmm. Et puis, les différentes façons, c'est au niveau en dessous de la langue, l'aisselle, rectal,
mm-hmm.
et puis on ajoute à ça avec des nouveaux outils qu'on nous offre en pharmacie au niveau du front et de l'oreille.
OK. Donc, l'offre est assez variée
oui,
quand même.
Mais les deux derniers que je viens de nommer, front et oreille, sont moins fiables.
Mm. Jocelyne Gadebois, encore un plaisir de vous entendre nous éclaircir des phénomènes qui peuvent survenir là, au quotidien, notamment si on a des enfants à la maison. Donc,
bien sûr.
On en connaît davantage maintenant sur ce phénomène qu'est la fièvre. Merci, Jocelyne.
À la prochaine.
Merci, Rémi Hermoso, à la mise en onde. Marianne Paquette au micro qui vous souhaite un très, très bon week-end. Profitez-en pour vous reposer ou nous réécouter encore à 17h. Nous, on est en rediffusion également présent au www.canalm.org. Je vous embrasse. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.